patria, patriarca, 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 patri, patriarca, patri.
Les miens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch. Cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight lies and whores.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille au masculin, un garçon au féminin.
L'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois.
De 18h30
à 20h.
Sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Bonsoir. Vous écoutez Dégenré, l'émission féministe pour déranger, et ce soir nous allons faire vous proposer une émission où nous allons écouter beaucoup de musique. Je te laisse, Nicolène, présenter l'émission que tu as préparée.
Oui, ce soir c'est une émission sur des chanteuses féministes africaines. On va voir un peu différentes chanteuses, différents parcours féministes qui vient du continent africain. Et je voulais juste dire, là on est en train d'enregistrer, c'est mardi matin et il y a des amis qui viennent de se faire expulser de chez eux. Alors voilà, Dégenré, là on est un peu triste ce matin. Il y a Dino la technique, Marina et Nicolène, et voilà. Alors on va voir qu'il y a d'autres gens dans d'autres pays qui luttent aussi et qui font des choses super. Voilà, et je vous propose de commencer cette émission par justement de la musique, par la fameuse Oumou Sangaré, qui est une célèbre chanteuse malienne féministe engagée dans plein de trucs. Et elle dit, je la cite, « La musique est une arme puissante qui ne verse pas le sang, qui ne tue pas, mais qui fait réfléchir les gens. Je vous propose d'écouter Yala. »
Thank you.
Voilà, vous êtes toujours sur Dégenrés, on a écouté Yalla de Oumou Sangaré. Alors, ce soir sur Dégenrés, c'est une émission sur des chanteuses africaines, des chanteuses féministes. Pourquoi ce thème ? En fait, moi, j'ai eu envie de faire cette émission parce que souvent, quand j'écoutais des chanteuses africaines, j'étais interpellée par la puissance de leur voix, par la force, en fait, qui se dégageait de la musique, voire par la rage, parfois, qui se dégageait de cette musique. Et en fait, en m'y intéressant un peu plus, je me suis rendu compte que beaucoup de chansons en fait, que j'écoutais déjà avaient des textes engagés. Et aussi, cette prise de conscience, je la dois beaucoup à des amies africaines que j'ai rencontrées l'année dernière, des féministes, des femmes qui ont divers parcours féministes, qui viennent d'un peu partout en Afrique, et qui m'ont fait découvrir des textes. Alors, je voulais dire que cette émission est dédicacée à Catherine, à Penda, à Sabour, pour m'avoir fait découvrir pas mal de choses sur le féminisme africain, les féminismes africains. Et aussi dire que ces rencontres avec ces femmes qui ont des parcours féministes, ça m'a donné aussi vraiment le peu de choses que je peux apprendre, en fait, que j'ai appris d'un féminisme international. J'ai l'impression que je leur dois à elles. C'est-à-dire que c'est vraiment d'elles qu'est venue en fait cette idée que oui, il peut y avoir un féminisme international et que leur façon de voir, moi, m'ont vraiment enrichi. Et alors, ce soir, cette émission, on n'est pas du tout spécialiste ni du féminisme africain, ni de la chanson africaine, mais c'est juste l'envie de voir différentes initiatives, d'écouter des chanteuses qui viennent d'Afrique du Sud, du Nord, du Centre, de l'Ouest, de l'Est, des îles. Et on a essayé de tenté de trouver des textes, des traductions, des textes, des chansons. On a essayé de trouver des musiques. Mais l'univers de la chanson africaine féminine est immense. Donc on vous propose d'écouter quelques chansons. Ça sera vraiment une sélection toute petite. Et puis aussi de ce que moi j'ai pu avoir ici en France. Et une question qu'on nous a demandé avant l'émission, c'est pourquoi ce continent ? Ben, c'est un choix assez arbitraire, hein. C'est un choix géographique. Et c'était juste l'envie de découvrir des voix, des luttes issues de peuples, de cultures différentes, sur un continent aussi grand que l'Afrique. Et aussi un peu cette idée que la musique à travers les continents nous témoigne que les femmes un peu partout dans le monde luttent. Alors entre les chansons, on va aussi vous lire des extraits d'interviews de féministes africaines sur leur lutte, sur leur parcours, sur la situation dans leur pays. Et on va commencer par le sud de l'Afrique, avec les Mahotela Queens, qui sont des légendes de la musique sud-africaine urbaine et des figures de la résistance culturelle à l'apartheid. Elles chantaient déjà dans les années 60 et elles chantent toujours dans les années 2000, elles sont toujours autant engagées. Et la chanson qu'on va écouter est issue de l'album « Say Bye Bye ». C'est un a cappella dans la tradition du Mumba. Et alors la chanson s'appelle Hilda Kloubatla, excusez-moi pour mon accent. Hein. Et c'est une chanson qui s'adresse aux femmes d'Afrique et qui les exhorte à ne pas baisser les bras, ne pas se laisser gagner par le pessimisme, mais continuer le combat en évitant de détruire son prochain.
Si. Yizo lezi ntombe zithiliza utawulo lo. Yizo lezi ntombe zithiliza utawulo lo.
Awuzwe.
Yizo lezi ntombe zithiliza utawulo lo. Yizo lezi zitiliza utawulo. Wentabatiliga tawulo.
On écoutait les Mahotela Queens, un groupe d'Afrique du Sud.
Alors les Mahotela Queens sont des militantes de la culture noire en Afrique du Sud. Et dans leur album C'est Bye Bye, il y a des chansons où elles exhortent les femmes à résister, à ne pas se laisser faire. Par exemple dans la chanson C'est Bye Bye, de ne pas tolérer que les hommes les exploitent ou profitent d'elles. Donc en Afrique du Sud, nombreuses sont les chanteuses engagées, comme Brenda Fassier ou Myriam Makeba. Par exemple, sous l'apartheid, faire partie d'une organisation de femmes pouvait coûter la prison, comme en témoignent beaucoup de militantes qui ont connu la prison et les tortures sous le régime de l'apartheid dans toute l'Afrique du Sud. Et bien sûr, dans les chanteuses engagées célèbres de l'Afrique du Sud, il y a Myriam Makeba. Et je vais vous proposer en fait d'écouter sa chanson qui l'a rendue célèbre, qui s'appelle Pata Pata. Alors Myriam Makeba, c'est une chanteuse qui est très connue pour avoir été très engagée sous l'apartheid en Afrique du Sud. Elle a dû s'exiler en 1963, je crois, suite à un discours contre l'apartheid. Et en fait, par sa musique et sa chanson, de façon un peu internationale, Elle a continué à lutter, à militer contre l'apartheid, et elle est revenue, elle a pu remettre les pieds en Afrique du Sud qu'en 1995. Voilà, et elle a fait un nouvel album qui s'appelle Homeland. Alors j'aurais bien voulu vous faire écouter, si on avait le temps, toutes les versions de Pata Pata, parce que c'est une chanson qui date des années 60 et qu'elle a chantée et qu'elle chante jusqu'à maintenant. Et c'est une chanson qui a beaucoup évolué et qui a été aussi très connue dans toutes les années de la décolonisation en Afrique, où les concerts de Myriam Makeba, donc, qui était une révolutionnaire indépendantiste, ça soulevait les foules, ce qui paraît, il y avait des émeutes quand elle passait, par exemple, dans l'Algérie libérée. Et voilà, donc j'espère que vous allez apprécier ce morceau qui s'appelle Pata Pata.
And everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play.
Vous avez écouté Pata Pata de Myriam Makeba. Sûrement que vous connaissez déjà cette chanson. En fait, ça a été le premier tube afro qui a fait le tour du monde et qui a vraiment eu un grand succès. Donc c'est pour ça qu'il est très connu. Donc Myriam Makeba, qui le chante, c'est une femme donc, qui était très engagée dans la lutte contre l'apartheid et qui a continué son engagement aussi pour les droits humains. Donc aussi pour les droits des femmes à être traitées comme des êtres humains, pour de vrai. Et en fait, ce que je me suis rendu compte en regardant les textes et puis un peu les biographies des chanteuses africaines que j'écoutais ou que j'ai découvert, c'est qu'en fait, beaucoup de ces chanteuses sont des femmes engagées pour la libération des peuples. Certaines ont été ou sont des révolutionnaires dans leur pays. Beaucoup dénoncent le racisme, la colonisation, la néocolonisation. Il y en a aussi qui chantent la mémoire de l'esclavage, la fierté de leur culture. Et aussi, l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que dans les chanteuses qui ont des textes féministes, en fait, elles ont toutes aussi des textes sur la colonisation, le racisme, les inégalités économiques et leurs conséquences. En fait, j'ai pas trouvé de chanteuse féministe engagée pour les droits des femmes qui soit pas engagée aussi pour d'autres causes. Donc ce sont beaucoup des porte-paroles souvent de l'injustice, plus globalement, quoi. Et dans cette émission, en fait, moi j'ai choisi de passer des chanteuses qui vont pas forcément se proclamer elles-mêmes féministes, mais c'est plutôt des chanteuses qui apportent leur soutien à la cause des femmes, alors de différentes manières. Certaines, par exemple, ont des textes qui appellent les femmes à pas se laisser faire, ou alors qui appellent les jeunes à distinguer ce à quoi ils doivent, ce qu'ils doivent conserver dans leur culture et ce qu'ils doivent remettre en cause. Ou alors des textes aussi qui décrivent les injustices que vivent les femmes. Il y a aussi des chanteuses qui apportent leur soutien financier ou leur notoriété à des associations féministes. Il y en a aussi comme Oumou Sangaré qui se disent féministes et très engagées pour la défense des droits des femmes. Et parfois aussi, il y a des chanteuses comme Oum Koulsoum par exemple, qui par leur parcours ou leur posture, la liberté qu'elles ont conquis dans leur vie, sont des figures qu'on peut nommer féministes parce que en fait elles ont mis un féminisme pratique. Aussi parfois derrière des chansons d'amour, certains registres de chansons en Afrique, on peut comprendre des chants révolutionnaires. C'est-à-dire on va chanter une chanson d'amour, mais derrière en fait on va remettre en cause par exemple le colon. En disant, par exemple, Oum Koulsoum, il y a des rumeurs qui disaient ça sur Oum Koulsoum, qu'elle chantait des chansons d'amour, mais que derrière tout ça, en fait, il fallait voir quand elle disait à son amoureux « Libère-moi de mes chaînes », qu'elle pouvait dire aussi aux colons « Libère-nous de ta domination », quoi. Et aussi, en lisant aussi des chants révolutionnaires donc explicites, on peut aussi parfois comprendre quand c'est des chanteuses qui les chantent, que c'est aussi une remise en question du statut des femmes. C'est-à-dire quand elle dit « Libère-moi, libère mon peuple, il faut qu'on se libère de tout joug », quand c'est des femmes qui le chantent, moi en tout cas j'entends aussi qu'elles peuvent chanter la libération des femmes, quoi. C'est aussi le problème de comment éviter la censure, dire des choses sans les dire pour que ça passe quand même, quoi. Par exemple, Oumou Sangaré, elle chante une chanson traditionnelle de mariage, où c'est une chanson qu'on chante au mariage des femmes de son peuple, où on leur dit « il faut que vous soyez la servante docile de vos maris ». Et elle la chante telle qu'elle, mais elle dit « voilà, mais chantez par moi, qui ai un parcours tel que j'ai ». En fait, comment ne pas comprendre le second degré, qu'en fait je le chante, mais parce que ça le critique, en fait, quand c'est moi qui le chante. Et du coup, voilà, c'est pour dire que le féminisme en pratique... Se va bien plus loin que des personnes qui peuvent mettre ce mot sur ce qu'elles chantent et sur ce qu'elles font. Alors je vous propose d'écouter justement une féministe en pratique qui s'appelle Oum Koulsoum. Oum Koulsoum, c'est une diva du monde arabe, c'est une idole, on la compare aux pyramides d'Égypte tellement elle est connue et... Comment ? Elle est connue puis elle est hyper adorée, adulée... Par le monde arabe et par tout le peuple, quoi. C'est quelqu'un qui réunit le monde arabe. Et c'est une femme qui s'est imposée en fait, dans un certain style de chant lyrique arabe qui était un domaine réservé aux hommes, voire carrément elle a psalmodié des extraits du Coran, ce qui est une activité normalement exclusivement masculine. Mais elle le fait tellement bien et avec tellement de grâce que personne n'arrive à contrecarrer... sa chanson. Elle est aussi connue pour donc chanter des chansons très longues sur scène et pour se permettre des choses que pas grand monde se permet. Entre autres, elle rentre dans des transes parfois quand elle chante et elle a des soupirs de plaisir, ce qui est pour une femme égyptienne sur scène quelque chose d'assez incroyable, mais qui suscite la passion des foules aussi. Et voilà, nous allons écouter un extrait parce que de El Atlal. El Atlal, ça dure 39 minutes. Là, on va écouter un extrait de 3 minutes de Oum Koulsoum. Voilà. Thank you.
زرت يوما أيكب طائر الشوق وغني ألمي يا حبيبا زرت يوما أيكب طائر الشوق وغني ألمي حبيبا زرت يوما أيكب طائر الشوق أغني ألمي لك إبطاء المدل المنعم وتجني القادر المحتكم وحنيني لك يكوي أضلعي وحنيني لك يكوي أضلعي وحنيني لك يكوي أضلعي
On écoutait Al-Atlal de Oum Koulsoum.
Et maintenant, on vous propose d'écouter un morceau de collectif, d'un collectif qui s'appelle 20 ans Barakat, le Wajdak Yalkadi, et on vous en parlera après. On l'écoute d'abord ?
Voilà.
Dans la famille. les tuteurs tirent les ficelles au noce des gazelles.
Mineur, ma sœur, alors on te rappelle.
Écoutez la chanson, elle ne changera pas d'air.
Et qu'on se le dise,
cette loi est à défaire.
À ne plus jamais faire.
À ne plus jamais faire.
Et qu'on se le dise,
cette loi est à défaire.
À ne plus jamais faire. ما يدوم الحال البارح كل يوم خبشي مخال يد وحدة ما تصفق يا رجال
مع تنور غاوية
ما زال وما زال
وشدك يا قاضي وشدك خف مني وخر كل مسلمي ما في أسلم وشدك يا قاضي
Déjanger, l'émission féministe pour vous déranger tous les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois sur Radio Kaléidoscope 97 FM. On vient d'écouter une chanson collective qui s'appelle Weshdak Yalkadi, qui a été qui est interprétée par le collectif 20 ans Barakette, ça suffit, qui est un collectif qui s'est monté pour lutter contre le code de la famille en Algérie.
Et justement, dans cette émission, on voulait vous lire quelques interviews de féministes actives en Afrique. Et sur le code de la famille, il y a beaucoup d'Algériennes qui se bougent, et notamment Leïla Marwan Mechantel. Je suis désolée pour la prononciation, hein, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une femme qui est née en 1960, qui est écrivain, journaliste, et qui est engagée dans la cause des femmes contre le code de la famille algérien, qui fait de la femme une assistée permanente et qui autorise la répudiation, la polygamie et le tutorat. On va vous lire un extrait d'interview. Donc, son dernier roman, La jeune fille et la mère, évoque la vie tourmentée de sa mère. Admirative et farouchement décidée à ne pas connaître son sort, Leïla raconte.
À 13 ans, ma mère a commencé à distribuer des tracts pour l'indépendance de l'Algérie. Rousse aux yeux verts, très engagée, disciple de Tito et Mao, c'était une vraie passionnariat. Dénoncée, elle s'est réfugiée dans une ferme à la montagne avec son père, qui était maquisard. En 1956, à nouveau dénoncée, torturée par l'armée d'occupation, à deux doigts d'être violée mais sauvée par le capitaine, elle s'est enfuie dans le maquis. C'est là qu'elle a rencontré mon père. Normalement, comme toutes les jeunes filles, après 2 ans de maquis, elle aurait dû aller étudier à Damas. Mais elle s'est retrouvée enceinte de moi et a dû partir à Djerba, au Maroc, pour y accoucher en sécurité. C'est là que je suis née, en 1960.
Malheureusement, après la naissance d'un premier frère, cette femme, désireuse de rompre avec le passé et de s'instruire, s'est laissée happer par la famille et la tradition.
Ma mère est devenue une machine à reproduire. Elle craignait sans cesse d'être répudiée et a contraint mes 4 sœurs à rester à la maison. Elle est morte à 49 ans, après avoir fait 10 enfants, épuisée et délirante. Dans un moment de lucidité, quelque temps auparavant, elle m'avait fait jurer de m'occuper de mes sœurs pour qu'elles échappent au joug des intégristes.
Alors, cette femme, donc Leïla Marwan Mechantel, a eu la chance de faire des études, et elle nous raconte comment ça s'est passé.
Oui, parce que ma mère a insisté pour que je fasse des études, elle voulait que je m'en sorte. J'étais passionnée de lecture et j'écrivais depuis l'âge de 9 ans. Très vite, je me suis tournée vers le journalisme. J'ai commencé comme correctrice avant d'être rédactrice. En même temps, je militais dans les associations de femmes qui se battaient contre le code de la famille. Un ensemble législatif qui fait de la femme algérienne une assistée permanente qui autorise la répudiation, la polygamie, le tutorat. Malgré les luttes intenses, soutenues par nombre d'organes de presse et par les forces progressistes, ces textes ont été adoptés en 1980. Et ils sont encore d'actualité. Le livret de famille algérien comporte 4 pages pour 4 épouses. Malgré ses promesses électorales, le président actuel ne l'a pas abrogé pour ne pas se priver de l'appui des intégristes.
Vivant seule, dans un village, dominé par les intégristes, parce qu'elle n'avait pas les moyens de se loger à Alger, connue pour ses articles virulents contre les abus sexuels, la corruption et l'injustice, Leïla a été menacée à maintes reprises. Mais à aucun moment, elle n'a pensé qu'il passerait aux actes.
Chaque jour, j'écrivais sur les droits des femmes. Au lendemain de la manifestation des femmes islamistes à Alger, exigeant le port du voile pour toutes, j'ai signé un papier invitant les femmes à refuser cette escalade, qui m'a coûté énormément cher.
Un matin, alors qu'elle allait prendre son bus pour Alger, elle a été agressée sauvagement. Entaille profonde au bras, elle en garde la cicatrice, dents cassées, coup violent sur la nuque.
Ils m'ont laissée pour morte, j'ai pensé qu'ils allaient revenir m'achever. Entre 1990 et 2000, les dix années noires, ils ont tué nombre de femmes. Là, j'ai compris qu'il fallait que je quitte l'Algérie.
En 1996, son premier roman est publié. Elle précise.
Je voulais rendre compte de la situation des femmes en Algérie, de la montée de l'intégrisme et dénoncer les responsabilités du pouvoir en place. Petit à petit, l'essai s'est transformé en roman qui a été accueilli favorablement par la presse.
Ce succès, par les indiscrétions, volontaires ou pas, d'un journaliste, l'a mise en danger. Une fois encore, elle a refait sa valise pour partir vivre au Maroc, puis à Berlin. Tout en poursuivant son travail de romancière, elle pigeait pour certains studios et écrivait des scénarios. Puis elle est revenue s'installer à Paris. Aujourd'hui, Leila Marouane est un écrivain reconnu, traduit en cette langue. Elle vient de publier son sixième roman, La jeune fille et la mère, où elle rend hommage à sa mère. Elle travaille actuellement à un livre qui dressera le portrait de six femmes féministes, connues ou pas, en pays islamique. Les unes ayant choisi ouvertement de lutter contre l'intégrisme, les autres acceptant certains compromis pour mieux le combattre de l'intérieur.
En tant que romancière, je ne prends pas parti. Pour ma part, je refuse tout compromis, car si je vis en exil ici, c'est bien à cause de l'intégrisme. Quand Mohamed VI, a aboli le code de la famille au Maroc, je me suis réjouie pour les femmes marocaines. J'attends le jour où cela se produira chez moi. Par mes écrits, je pense contribuer à ce que cela arrive le plus rapidement possible. Et finalement, mon père qui a tant fait souffrir ma mère, par égoïsme et peut-être par peur du changement, est très fier de ce que je suis aujourd'hui.
Donc c'est un exemple de femmes féministes qui luttent contre le code de la famille en Algérie. Et en fait, je voudrais bien lire d'autres extraits d'autres femmes féministes qui luttent contre le code de la famille en Algérie. On peut citer Siham Berkit, qui est née en 1981 à Oran et qui milite dans le centre des droits des femmes, donc plutôt une génération avant, quoi. Et il y a aussi des femmes qui ont organisé des manifestations à visage découvert pendant les années aussi vraiment noires de terrorisme et qui faisaient des manifestations, par exemple, avec des cibles sur elles en disant, en militant contre le code de la famille, on risque de se faire tuer, en fait. Et voilà, pour dire que le féminisme peut être un sport de combat, mais que des femmes résistent génération après génération pour lutter contre les injustices faites aux femmes. Et je vous propose d'écouter une chanson d'Oumou Sangaré. Alors Oumou Sangaré, c'est le Mali, hein, c'est pas l'Algérie. Mais c'est une chanson où elle parle de sa mère et je vous la traduirai ensuite. Et ça m'a beaucoup fait penser à l'interview là, qu'on vient de vous lire. Oumou Sangaré, Magnumako. On vient d'écouter Magnum Ako de Oumou Sangaré. Cette chanson, je l'avais choisie pour faire un peu écho au texte qu'on a lu avec Marina. C'est une chanson, Magnum Ako, ça veut dire l'extrême souffrance, l'agonie. Et je vais vous lire ce qu'écrit Oumou Sangaré à ce propos. J'ai écrit cette chanson sur ma mère, sur comment elle a pleuré, été marginalisée dans cette société, comment elle a été ignorée, comment elle s'est battue. Comment une femme africaine peut-elle écouter cette chanson sans pleurer ? Les femmes passent leur vie entière à souffrir. Elles tombent enceintes dans la souffrance, donnent la vie dans la souffrance. L'enfant rampe dans la souffrance, les mères souffrent à élever toutes seules leurs enfants. Puis les enfants deviennent des adultes bien élevés. On dit à la mère de rester en dehors des affaires de ses enfants, de ne pas interférer dans son mariage. Tout l'argent qu'il gagne va directement au père, pas à la mère. Si elle veut le moindre sou, elle a à le réclamer à son mari. Elle a tout fait pour ses enfants, mais tous les honneurs et récompenses vont au père. Ma mère était seule, luttant pour s'en tirer, pour bien nous élever. Ses larmes coulaient en permanence. Nous étions 6 dans une chambre. Parfois, la nuit, elle nous regardait et elle se mettait à pleurer, parce qu'elle ne savait pas comment elle allait nous nourrir le lendemain. C'est ce que je décris dans cette chanson. J'adresse ce chant à toutes les femmes d'Afrique. Je vous dis, vous serrez votre ceinture, vous endurez des souffrances, vous êtes perdues parfois dans de noires pensées, mais prenez les choses à bras le corps, parce qu'un jour, il y aura de la lumière dans vos vies. Ma mère ne peut écouter cette chanson. Si ça passe à la radio, elle dit « Ok, coupe-moi ça, ça suffit ». Et le refrain donc, de la chanson fait « La souffrance que les femmes endurent, il n'y a rien de comparable. Oh l'agonie des femmes comme les mères souffrent. La façon dont ma mère a souffert, je n'ai jamais rien vu de tel. » Alors, voilà pour Oumou Sangaré. C'est quelque chose aussi dans les récits des féministes qui disent « En fait, moi je me suis engagée parce que ma mère, ce qu'elle a souffert, ce qu'elle a enduré, j'avais pas envie. Et que ma mère m'encourageait à dire « Fais tout pour ne pas avoir ma vie ». Et c'est un truc qu'on trouve aussi bien en Afrique du Sud qu'en Afrique de l'Est, de l'Ouest. C'est quelque chose qui revient souvent et qui revient souvent dans les chanteuses, même de chanteuses qui se disent pas du tout féministes. Il y a souvent des chansons sur leur mère et sur comment elle s'est sacrifiée, comment elle a souffert, et comment c'était dur leur vie. C'est un thème qui revient souvent. On vous propose maintenant d'aller vers la Corne de l'Afrique, en Érythrée. C'est une chanson de Tseaitou Béraki. Alors Tseaitou Béraki, c'est une femme érythréenne qui s'est engagée dans la révolution indépendantiste en Érythrée. Donc l'Érythrée, c'est un petit pays vers l'est de l'Afrique, donc la Corne de l'Afrique, qui se situe vers, voyez, l'Éthiopie, la Somalie, Djibouti. Et où il y a eu une lutte indépendantiste très dure, mais où les femmes se sont beaucoup engagées dans la lutte armée. Et notamment, Tseaitou Béraki, elle s'est beaucoup engagée à la fois dans ses chansons et à la fois dans la lutte armée, dans la résistance. Et je vous propose d'écouter une chanson qui s'appelle Adé et qui veut dire maman.
Mamina, 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 mamina,
Alors après l'Érythrée, on va vous lire un témoignage de Aïcha Dabalé, qui est née à Djibouti en 1957. Cette femme milite contre les mutilations sexuelles des filles, l'impunité des viols des femmes dans les conflits armés et pour le respect des droits humains dans la Corne de l'Afrique.
Je suis née à Djibouti. Nous étions 6 filles et 1 garçon. On reprochait à ma mère de ne faire que des filles. Mon père a été courageux, il a refusé la polygamie, malgré la pression de sa famille. Il était en avance sur son époque, il a scolarisé toutes ses filles. Il disait que nous devions être indépendantes. Mais l'excision est un tabou indépassable. À 7 ans, j'ai eu la totale, excision et infibulation, comme toutes les petites filles djiboutiennes. Ce sont des coutumes très anciennes, néfastes à la santé des femmes, qu'il faut éliminer totalement, en agissant sur les mentalités, car elles font souffrir des femmes toute leur vie.
À 17 ans, Aïcha crée le premier comité contre l'excision et l'infibulation. À l'époque, c'était un tabou de s'attaquer à ces pratiques.
J'ai décidé que personne ne toucherait à mes filles, ni à aucune autre petite fille. On pensait que j'étais folle, on me montrait du doigt, mais j'ai trouvé des alliés parmi les lycéennes, il fallait juste que ça démarre. Aujourd'hui, les femmes sont nombreuses à lutter contre ces pratiques, il existe une loi, mais elle est inappliquée.
Aïcha Dabalé, pendant de nombreuses années, s'investit dans différents projets humanitaires, dans différentes associations. Elle a milité contre la famine, enfin, pour aider les gens victimes de la famine dans la Corne de l'Afrique. Elle s'est aussi engagée du côté des enfants, pour que tous les enfants aient le droit d'être scolarisés. Et aussi contre la persécution des Afars, qui est le peuple dont elle est issue. Et quand elle s'est engagée dans la persécution des Afars, en Éthiopie, avec son mari, ils se sont fait arrêter avec d'autres opposants Afars. Et elle dit, elle explique en fait que donc elle a été emprisonnée par la suite de son arrestation, et elle explique pourquoi.
J'étais enceinte de 3 mois. On m'a accusée d'avoir été l'instigatrice intellectuelle d'une attaque contre les soldats djiboutiens qui avaient fait 40 morts. En réalité, j'étais connue pour avoir fait dénoncer par la Fédération démocratique internationale des femmes à la conférence de Pékin en 1995 les viols de plus de 200 femmes afars par les militaires djiboutiens. Cette réalité était connue à la base française de Djibouti qui comptait alors plus de 3000 soldats. La création du comité des femmes djiboutiennes contre les viols et l'impunité date de cette période. Mes combats d'aujourd'hui sont toujours les mêmes, contre l'excision et l'infibulation, contre l'impunité des militaires coupables des viols, contre la pauvreté, pour le respect des droits humains et la dignité des femmes.
Alors après cette lecture d'une interview d'une féministe djiboutienne, je vous propose d'écouter un petit montage qu'on a fait. C'est la bande originale de Mola Adé. Mola Adé, c'est un film qui relate une histoire de femmes qui se révoltent justement contre l'excision, mais plutôt en Afrique de l'Ouest cette fois. Et aussi dans ce montage, il y a un poème qui est lu par une amie qui s'appelle Catherine. C'est un poème de Sabr Bint Loula qui est sur les mutilations.
Petite fille au grand soleil, tu verras ton jour s'éteindre et ton désir se restreindre, puis tu banniras ton réveil. Au petit matin, le bonheur dans ton corps s'emmue, élu des règles et des us, il t'affiche leur ardeur. Les hommes créent le flot, tandis que les femmes te tiennent. Mais tous contiennent la joie secrète des fous. Bientôt, des doigts de sorcière posséderont ton corps si docile. Le moindre battement de cils émonte les enchères. à même le sol, le pot allaitant. Elle t'initie à l'âme insensible, te prive de ton nez sensible. Elle te frappe à bout portant. Qu'en ont-ils dit? Qu'en ont-elles fait? Qu'en ont-ils raconté? Qu'en ont-elles pris? Petite fille au grand soleil, écarte tes jambes fines, qu'elle place la lame d'épine. Petite fille dans l'écueil, maintenant que le sang gît, c'est ta douleur, ma douleur, c'est ta pâleur, ma couleur. Maintenant que le cœur ne vit, il brime ta joie. Elles ont arraché ton sexe, ils ont marqué ton axe. Ils, encore ils, dites ta foi. Petite fille au grand soleil, tu vois ta nuit s'étendre et ta ronde lune se fendre. Puis tu crains ton réveil. Ce poème s'appelle Petite Julfe. C'est un poème qui a été écrit par une femme djiboutienne qui a subi des mutilations sexuelles.
Alors, je vous propose de lire un autre témoignage de Khadidia Sidibé Aoudou, qui est une militante féministe du Mali. Elle est née en 1944 à Gao et elle est directrice de l'Association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles.
J'ai pris conscience du problème de l'excision à 26 ans, quand une de mes élèves a été rejetée par sa famille car soupçonnée d'être enceinte. En fait, elle avait été excisée et infibulée et avait une infection terrible. Le sang menstruel ne pouvait pas s'écouler. Elle n'osait pas en parler. Son ventre était énorme, prêt à éclater. On l'a amenée d'urgence à l'hôpital, trop tard. Elle est morte d'une septicémie. J'étais révoltée. J'ai voulu suivre un programme sur la santé de la procréation. C'était mon premier contact avec cette pratique que j'ignorais totalement en tant que malienne du Nord. J'ai appris par la suite que différentes cultures existent au Mali. Il me fallait les découvrir, les comprendre pour expliquer ce décès. Mon contact avec ces différentes cultures a beaucoup influencé ma réflexion. Ceux qui pratiquent l'excision avancent souvent des arguments religieux. Or, il n'a jamais été dit dans le Coran que la femme doit être excisée. D'ailleurs, toutes les religions en Afrique ne pratiquent pas l'excision. Après, cela dépend des ethnies. Chez nous, cela ne se fait pas. Je suis fortement imprégnée par la religion musulmane, mais j'ai été choquée par des prêches contradictoires et sexistes sur la femme et toujours mis sur le compte de Dieu. L'analyse de ces prêches laisse croire que l'homme est une passerelle pour la femme pour aller au paradis. Cet aspect contradictoire m'a amenée à beaucoup lire la Bible, la Kabbale des Juifs, le Coran, afin de mieux saisir le concept de Dieu que je me représente comme bon et juste. Comment l'excision, pratiquée, a-t-elle été maintenue pendant des siècles ? Par expérience, je sais maintenant que les gens ont souvent une méconnaissance totale du rôle et des fonctions des organes génitaux. L'influence socio-culturelle religieuse a modelé les individus au point de bloquer tout esprit critique et d'analyse chez eux. Un conformisme aveugle dicte tout leur comportement. L'analphabétisme et la pauvreté viennent renforcer tout ceci. Mon association se bat au quotidien contre ces pratiques. Depuis 14 ans, nous travaillons dans la région de Bamako et dans celle de Kayes, au sud-ouest du pays. Nous sillonnons les villages, documents à l'appui, expliquons les conséquences néfastes de l'excision sur la santé des femmes, infections diverses, fistules, difficultés à l'accouchement, décès de la mère ou de l'enfant. Inlassablement, nous montrons concrètement, à l'aide d'un mannequin très réaliste, composé d'éléments mobiles tels un Lego, ce qu'est un sexe normal et un sexe excisé ou infibulé. Enfin, point culminant de la démonstration, nous exhibons des photos insoutenables réalisées par un gynécologue, le docteur Touré, fervent combattant de la lutte contre l'excision. Il est engagé dans l'association et opère les femmes excisées qui ont des complications médicales. La salle est souvent bouleversée, les questions fusent. Mais d'où vient cette pratique? Et si elle existe, c'est bien qu'il y a une raison. Cela empêche les femmes d'aller courir ou encore une femme non excisée est stérile? Les opinions divergent, le ton monte, je reste imperturbable et de nouveau j'explique, inlassablement, le nom fondé de cette pratique. Dans chaque village sont nommés des jeunes gens, personnes relais volontaires et acquises à notre cause, chargées de vérifier que les informations ont bien été comprises, transmises à tous les habitants et débattues au conseil des chefs. Un rendez-vous est pris, l'équipe reviendra quelque temps après pour connaître la décision du village, arrêter ou continuer d'exciser les filles. À l'heure actuelle, sur 40 villages sensibilisés, 20 ont décidé d'abandonner l'excision. L'association prend en charge financièrement les opérations pour les femmes souffrant d'infections. Elle a créé des activités génératrices de revenus pour 25 exciseuses qui ont abandonné le couteau et font aujourd'hui de la sensibilisation. Un grand travail doit être fait dans la prise de conscience des femmes dans la gestion de leur corps et de leur propre estime. Et cela ne peut être atteint qu'à travers des séances d'information, d'alphabétisation et de lutte contre la pauvreté. Quand les besoins de l'être humain restent des besoins non satisfaits, son esprit ne peut être productif. C'est pour cela que le combat des femmes doit être soutenu matériellement et financièrement afin de pouvoir atteindre un changement de comportement. Le changement de comportement demande du temps, de la patience, des stratégies, de l'argent, mais surtout beaucoup de conviction. Je rêve de femmes instruites, alphabétisées. Je rêve d'une femme en bonne santé qui se gère, s'estime, se valorise et qui se suffit économiquement. Je rêve de femmes et d'hommes qui diront un jour « Nous sommes des êtres humains, avec les mêmes destins, sans distinction de sexe. » Je rêve d'un monde juste où chacun aura la capacité intellectuelle et physique d'apprécier l'autre. Mon but dans la vie est que tous les Maliens et tous les Africains abandonnent l'excision et toutes les formes de pratiques dégradantes pour l'être humain.
Voilà pour ce témoignage d'une femme active dans les nombreux mouvements féministes africains. Sur Dégenrées, on aurait aimé vous lire encore plein d'autres interviews, mais déjà le temps avance. Donc on va écouter une chanson de Oumou Sangaré, et après on va vous lire une interview complète de Oumou Sangaré et de son engagement en tant que chanteuse pour la cause des femmes. Nous écoutons Djorolen.
Oh,
On a écouté une chanson de Oumou Sangaré. Oumou Sangaré, c'est une chanteuse malienne qui est née en 1968 à Bamako.
C'est une chanteuse que t'aimes beaucoup.
Oui.
C'est quand même un peu la star de notre émission ce soir, j'ai l'impression.
Ouais, c'est une chanteuse formidable et ses textes sont vraiment magnifiques aussi. La diva malienne est née à Bamako dans une famille Peul, venue du Wassoulou. Sa voix exceptionnelle est aujourd'hui connue dans le monde entier.
Mon père polygame a abandonné ma mère quand j'avais 2 ans. Elle s'est retrouvée seule, sans éducation et sans emploi, avec 2 filles et 4 garçons. Nous étions très souvent seuls à la maison car ma mère partait pour ses activités de commerce. J'ai assumé très tôt des responsabilités. Vers 10 ans, j'étais déjà la petite maman de la maison qui prenait soin de la famille. Je faisais à manger. Pour rapporter quelques pièces, je vendais des petits sachets d'eau ou des épis de maïs dans la rue. Je chantais également. Et c'est dans la rue que j'ai connu mes premiers succès. La musique et le chant étaient très présents dans ma famille. Ma grand-mère maternelle était une chanteuse très appréciée. Et ma mère aussi chantait. C'est elle qui m'a encouragée à travailler ma voix. Quand le succès populaire est venu, elle était partagée entre le bonheur et la peur à cause des chansons que j'écrivais contre les mariages forcés. Mon premier album, Moussolou, veut dire les femmes. Le troisième, sorti en 1993, s'intitule Worotan. Il parle d'une coutume selon laquelle un griot se présente dans une maison où l'on a réuni les filles. Il remet Worotan, l'offrande de 10 noix de cola, aux parents de la fiancée. Ce geste scelle une transaction de mariage arrangé entre les familles. Les jeunes filles ne savent pas laquelle a été choisie. La malheureuse l'apprendra le soir, au moment de coucher avec un homme qu'elle ne connaît pas.
Oumou Sangaré a une conviction inébranlable dans l'influence que peuvent avoir sur les mentalités les paroles de ses chansons, qui parlent de l'oppression dont les femmes sont victimes.
La musique est une arme puissante, qui ne verse pas le sang, qui ne tue pas, mais qui fait réfléchir les gens. Par exemple, des jeunes filles ont peur des représailles si elles refusent le mariage arrangé. Moi, je chante qu'il faut dire non au maire, qui ne connaît pas la situation et fera son travail si vous ne l'avertissez pas que vous n'aimez pas cet homme. Les femmes sont très réceptives lorsque j'évoque la polygamie ou la maltraitance. Une amie m'a dit que certaines d'entre elles sont en pleurs dans la salle. Très tôt, dès mon enfance, et par l'expérience, j'ai pris conscience des discriminations qui touchent les femmes. Je ne pouvais jamais jouer avec les petites filles de mon âge, je n'avais pas le temps, je devais m'occuper de mes frères et sœurs. Je voyais ma mère délaissée, tout sacrifié pour nous élever. Alors je me suis posé des questions.
Avec le recul, elle estime que la situation des femmes progresse au Mali.
La polygamie perd progressivement de ses valeurs. Les mutilations sexuelles sont interdites, même si elles se pratiquent encore clandestinement. Faire changer les mentalités prend beaucoup de temps, et la loi n'existe que depuis l'été 2003. Des femmes s'organisent dans ce sens, des marches sont organisées le 8 mars pour rappeler nos exigences. Il faut prendre nos problèmes en main pour nous faire respecter. Il y a quelques années, j'avais acheté un champ pour y faire paître un troupeau de vaches. De retour d'une tournée, j'apprends qu'il a été vendu. Je me suis adressée au chef du district qui m'a dit « C'est moi l'homme, c'est moi qui décide ». Alors je suis allée chercher un bulldozer et j'ai détruit les cultures que le nouveau propriétaire avait lancées. J'ai aussi dénoncé le comportement de ce chef de district qui a été muté par la suite. Le monde évolue, les filles de 20 ans ont une meilleure vie que celle de la génération précédente. Elles n'acceptent pas ce que leurs mères ont accepté et leurs filles n'accepteront pas ce qu'elles tolèrent aujourd'hui.
La jeune femme ne cache pas la joie éprouvée en juillet lorsque l'Union africaine a adopté le texte en faveur des droits des femmes en Afrique. Elle regrette qu'il se contente d'encourager la monogamie.
Tant que l'Afrique connaîtra la pauvreté, la polygamie existera, car c'est elle qui permet aux hommes riches d'acheter la conscience des parents. À mon époque, toutes les filles d'un certain âge étaient excisées. On ne se posait pas de questions sur les conséquences. Aujourd'hui, des campagnes sont menées par des associations, dans les journaux, la radio et les institutions d'État. Je soutiens d'ailleurs une association contre cette tradition. Maintenant, les religieux comprennent aussi le danger, tout le monde est contre, seuls les conservateurs restent attachés à ces pratiques, mais ils n'osent pas le dire officiellement.
La lutte contre les mariages forcés n'est pas le seul engagement social d'Oumou Sangaré.
Je soutiens l'association SOS Mère-Enfant, qui accueille des enfants des rues et des mères de famille répudiées qui n'ont plus de toit. Actuellement, nous recevons 34 enfants et 6 mamans. Elles se forment à la fabrication du savon, la couture ou la teinture de tissu. Les enfants sont scolarisés, mais ils doivent quitter le centre à 12 ans. J'ai le projet de créer un accueil pour les adolescents qui pourraient suivre une formation professionnelle.
Lors de ses tournées à l'étranger, elle a conscience d'être porteuse des valeurs de sa culture.
Je ressens cette responsabilité. À l'issue d'une représentation aux États-Unis, un journaliste m'a dit « Oumou, quand on te voit sur scène, joyeuse, en forme, ça ne correspond pas à l'image que l'on a de l'Afrique. La faim, les guerres, la galère. » Je lui ai répondu « On vous camoufle le bon côté de notre vie. C'est comme si on descendait dans le métro pour filmer les clochards et dire que tout le monde vit ainsi dans votre pays. » Dans mon groupe, on aime bien la chanson que le guitariste a composée. Elle dit « On chante, on danse, on rit, c'est comme ça au Mali. » Je pense que les échanges culturels à travers le monde sont toujours très positifs. Je suis très attachée à mon identité culturelle et je milite pour que nos coutumes, celles qui sont porteuses de valeurs, se perpétuent et soient connues à l'étranger. Ma chanson « Malandon » interpelle les Maliens sur le sens de l'hospitalité qui ne doit pas disparaître. J'aime aussi porter ces magnifiques boubous africains.
Lors de nombreux voyages à l'étranger, Oumou Sangaré a pu observer de nombreuses similitudes entre les conditions de vie des femmes en Afrique et dans le reste du monde.
Pour l'éducation des enfants, il y a encore des différences entre les filles et les garçons. Il y a des femmes abandonnées ou qui vivent des choses très difficiles. Un jour, au nord du Mexique, lors d'une conférence de presse, une femme m'a dit « Tu ne dois pas limiter aux femmes africaines les souffrances dont tu parles. Chez nous, c'est la même chose. La pauvreté peut faire vendre une fille pour une bouteille de vin. » C'est vrai. Un jour, en Seine-Saint-Denis, une jeune fille a frappé à ma porte pour échapper à un mariage forcé. Ses copains l'avaient enlevée le jour de la cérémonie alors que sa famille préparait la fête.
Au regard du chemin parcouru, des obstacles franchis et ceux qui restent encore sur sa route, elle conclut.
Le début de ma vie a été très dur, mais ces difficultés m'ont donné la force que j'ai aujourd'hui et une énergie qui me restera jusqu'à la tombe.
Voilà, et ben, c'était l'interview de Oumou Sangaré. Moi je conseille vraiment aux gens qui écoutent sa musique de lire ses textes, parce que souvent ils sont traduits au moins en anglais et c'est vraiment très riche. Il y en a sur la polygamie, il y en a sur la mort, il y en a sur la joie de vivre, il y en a comme Yalla, le premier qu'on a écouté, qui sont des espèces de tubes qui sont faits pour danser mais qui portent en même temps un message politique, qui se dirigent vers la jeunesse. Il y en a sur l'oppression des femmes et il y en a aussi, elle en parle un petit peu dans son interview, qui ont fait fureur, qui sont sur le plaisir sexuel féminin. Elle a plusieurs chansons qui sont des odes aux caresses et au plaisir de faire l'amour. Et à ce qui paraît, quand elle a commencé à chanter ça, ça a fait une espèce de bombe dans la société malienne. Et je trouve ça aussi magnifique que des chanteuses comme ça se permettent de tels chants révolutionnaires. Voilà, et ben on va écouter maintenant Zara Moussa. C'est Kirari, femme rurale.
Toujours elle, toujours la même meuf. Zidé m'apporte en entre-thème sans tandem. C'est pour nos mères. Je suis la bouche de celles qui n'ont pas de bouche pour réclamer et dénoncer. Je suis les yeux de celles qui n'ont pas d'yeux. Dans cette vie pleine de virages, de mirages, de faux visages. L'espoir de celles qui n'ont pas d'espoir, pour qu'il n'y ait pas désespoir. Je suis la bouche de celles qui n'ont pas de bouche pour réclamer et dénoncer. Je suis les yeux de celles qui n'ont pas d'yeux. Dans cette vie pleine de virages, de mirages, de faux visages. L'espoir de celles qui n'ont pas d'espoir, pour qu'il n'y ait pas désespoir. Je persévère même si gêne, retour en force pour dénoncer le sort choquant de cette femme enfoncée, femme rurale, au moral tabassé. Quel mordant pour son repos menacé, en fait pour elle. Point d'amour, une vie sans humour, souvent rejetée sans recours. Elle n'a pas de parole ni de secours, elle paraît égarée même dans sa propre cour. Pour elle,
droit de femme n'est que discours. Au foyer, aucun effort pour la choyer, tout en noyé dans des corvées. Je ne peux baisser ma voix ni me taire sur ce que je vois. Check mon flow, mon cri de guerre. Non, je m'oppose contre un monde qui perd la foi et qui cause à cette femme des douleurs attisées pour un destin martyrisé. Femme rurale, traumatisée. Ses sentiments anesthésiés à la place de je t'aime. Elle retrouve ses totems, très souvent beaucoup de blême. Quand sera-t-elle sans problème? Je suis la bouche de celles qui n'ont pas de bouche pour réclamer et dénoncer. Je suis les yeux de celles qui n'ont pas d'yeux dans cette vie pleine de virages, de mirages, de faux visages. L'espoir de celles qui n'ont pas d'espoir pour qu'il n'y ait pas désespoir. Je suis la bouche de celles qui n'ont pas de bouche pour réclamer et dénoncer. Je suis les yeux de celles qui n'ont pas d'yeux dans cette vie pleine de virages, de mirages, de faux visages. L'espoir de celles qui n'ont pas d'espoir pour qu'il n'y ait pas désespoir. Un appel à l'attention, toutes nos femmes du savoir, diplômées des honneurs, bien que sans pouvoir. Vouloir c'est pouvoir. Le cas de la femme rurale mérite notre attention. Faut qu'on réagisse avec plus d'action. Son évolution mérite réflexion. Son éducation mérite expansion. Car elle est sans revenu, sans menu ni tenue, parce que pas soutenue. Au grand de ce pays qui pavoie gaiement leur cœur extorpé, je pense qu'il vous reste une place où loge la pitié. Faites en sorte que leur dignité humaine ne soit plus confisquée par des mal malades et mal malins, mal nourris, souvent mariés à faire puberté. Son avenir n'est que trou noir. Souvent divorcée, encore gamine, mère, famille, abandonnée. Souvent morte pendant accouchement, agir pendant qu'il est temps. Microcosme, macrocosme, toujours le même refrain, débile et lassant. Cette peine me donne la haine, toute la rage rejoint mes veines. Ces édèmes qui déchaînent, faut pas que ça traîne. Je suis la bouche de celles qui n'ont pas de bouche pour réclamer et dénoncer. Je suis les yeux de celles qui n'ont pas d'yeux dans cette vie pleine de virages, de mirages, de faux visages. L'espoir de celles qui n'ont pas d'espoir pour qu'il n'y ait pas désespoir. Je suis la bouche de celles qui n'ont pas de bouche pour réclamer et dénoncer. Je suis les yeux de celles qui n'ont pas d'yeux dans cette vie pleine de virages, de mirages, de faux visages. L'espoir de celles qui n'ont pas d'espoir pour qu'il n'y ait pas désespoir. De celles qui n'ont pas Dieu. L'espoir de celles qui n'ont pas d'espoir pour qu'il n'y ait pas désespoir. Je suis la bouche de celles qui n'ont pas de bouche pour réclamer et dénoncer. L'espoir de celles qui n'ont pas d'espoir. Je suis la bouche de celles qui n'ont pas de bouche pour réclamer et dénoncer. Les yeux de celles qui n'ont pas Dieu dans cette vie pleine de virages, de mirages, de faux visages.
Dégenré, l'émission féministe pour déranger sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Si vous voulez nous écrire pour nous demander des compléments d'information, pour nous faire des observations, nous dire ce que vous en pensez, vous pouvez nous écrire soit à la radio Kaléidoscope, soit vous pouvez nous envoyer un mail à dégenré, D-E-G-E-N-R-E-E, @boom.org. N'hésitez pas.
On a écouté Zara Moussa, donc sa chanson qui s'appelle Femme rurale, qui est sortie de son album Kirari. Zara Moussa, c'est une rappeuse qui vient du Niger. Et Kirari, c'est le cri de guerre de son peuple avant le combat, qui signifie le courage, l'invincibilité. C'est une chanteuse féministe engagée, comme vous avez entendu.
Et alors, finalement, on n'a pas le temps de vous parler de toutes les féministes africaines. En fait, elles sont bien nombreuses. Une heure et demie, ça ne suffit pas. On refera sûrement d'autres émissions. Peut-être, Nicolène, tu avais encore au moins envie de citer des projets féministes africains dont on voulait plus détailler, mais qu'on n'a pas le temps.
Ouais, c'est vrai que la richesse des mouvements féministes africains est grande. Et du coup, moi, j'avais juste envie de parler d'autres initiatives qui me touchent personnellement, comme les villages non mixtes qui sont en train de se monter en Éthiopie. C'est des femmes qui ont été répudiées, par exemple, par leur mari suite à des viols par des militaires et qui s'organisent en fait entre elles après pour vivre et survivre sans l'oppression des hommes. Il y a aussi les Cités des Femmes à Dakar. Je trouvais ça particulièrement intéressant, des femmes qui se montent pour s'autonomiser économiquement. afin de ne pas être justement sous le joug d'un homme, notamment pour l'habitat. Voilà des initiatives que je trouve vraiment super. Il y en a plein. Et là, on va vous faire écouter deux choses. Wassa, c'est un extrait, pareil, de Mola Adé. C'est un extrait d'une manifestation de femmes contre l'excision. À la suite, on va écouter une chanteuse qui vient de La Réunion, qui s'appelle Christine Salem. Dans son album, celle de son groupe Salem Tradition, son album s'appelle Femme. Enfin, je sais pas comment ça se dit, c'est en réunionnais, en créole réunionnais. Sa chanson s'appelle Assez. C'est une chanson qui parle de femmes qui en ont assez, que les hommes prennent pas leurs responsabilités.
Wassa ! Wassa !
On entend là un extrait du film Mola Adé. Ce sont des femmes qui sont en train de manifester et de se rebeller pour demander l'abolition de l'excision.
Assa ou TV, dandi ou la barre, d'enfant la l'aîné, et qu'un pougné douleur. Il remercie mon Dieu, sans ou mi gain soigné, mi lac pas loquer, mi si pote mon douleur. Assa ou TV, dandi ou la barre, et qu'un pointier douleur. Amiro, merci, bon Dieu, sans ou mi gain soigné, mi lac par le cœur, mi si pas de mon douleur.
finir cette émission consacrée aux féministes africaines chanteuses, nous vous proposons une chanson de Swad Massi.
Nous allons écouter Amessa, qui signifie « Un jour viendra ». Je vous lis deux phrases de la chanson. « J'ai trop souffert de toutes les injustices, mais un jour viendra où le soleil brillera. »
Yes.